Voilà. Bon. Bonsoir à chacun. Je ne sais pas si tout le monde est au complet, mais je pense.
Va arriver.
Ouais. Bon, ben on va commencer tranquillement. Alors, est-ce que par rapport à ce que d'abord vous avez reçu en principe les documents
Oui.
que transmettre, c'est-à-dire la bibliographie et puis le plan, la bibliographie que je vais commenter et le plan. Voilà. Est-ce que, avant de commencer, vous avez des questions sur ce qu'on a fait la semaine dernière ou des points d'incompréhension, des questions la semaine dernière. Il y a un micro qui est branché et qui interfère pas mal. Je ne sais pas lequel c'est, mais je le signale parce que ça fait un peu de bruit sur la ligne. Ça a l'air d'être Nadine, mais bon.
Ah oui,
Voilà.
je l'éteins tout de suite,
Ah, c'est
je
gentil.
ferme.
Mais dès que vous, évidemment, vous avez envie de poser une question, vous remettez le micro. Oui, donc y a-t-il des questions sur ce que nous avons fait la semaine passée? Ou bien vous avez tout bien compris, tout était clair, pas de demande d'explication supplémentaire, pas de questions qui auraient surgi. Non? Ah bon. Alors, je ne sais pas si il y a la personne qui est là l'après-midi et qui revient le soir, parce que la semaine dernière, on avait un monsieur, je crois, qui était là à mon cours l'après-midi aussi. Et qui était là en plus le soir. Donc, je sais pas, mais il se signalera si c'est le cas. Alors, on va commencer par les instruments qu'on vous a distribués et surtout la bibliographie que j'ai pas sous les yeux. Donc, c'est ça qui m'arrange pas. C'est pas grave. Vous avez donc cette bibliographie qui est extrêmement succincte, qui est beaucoup trop succincte d'ailleurs. Et que j'ai infiniment simplifié par rapport aux années précédentes, parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien de donner une bibliographie trop dense. Alors, plusieurs remarques sur cette bibliographie. C'est plutôt une bibliographie, je dirais, de référence, hein, de consultation pour vérifier des sources, pour vous informer de telle ou telle question. Elle n'est pas exhaustive du tout, du tout, du tout, c'est-à-dire qu'elle centre essentiellement sur les questions que nous allons traiter ensemble. Elle exclut beaucoup d'autres questions, y compris théologie morale, que je ne vais pas aborder et que vous aborderez probablement ailleurs. Donc, elle est très, très sélective. Elle est en trois parties. Il y a une première partie sur le magistère, une deuxième partie sur les outils pédagogiques et une toute petite partie sur les cours et les manuels. Alors, tous les ouvrages qui sont là-dedans, ce sont, ou les documents, sont des ouvrages plutôt de consultation. Maintenant, si vous avez envie de les lire dans l'IA tel ou tel in extenso, je ne peux que m'en réjouir. Mais c'est pas forcément d'abord leur vocation, hein. Alors, j'ai mis dans la bibliographie d'abord les textes du magistère. Pourquoi? Parce que il y a une, c'est une norme de présentation en théologie catholique. Il faut le savoir, quand vous faites une, n'importe quel travail universitaire, une dissertation, un mémoire, tout ce que vous voulez, dans la bibliographie, on cite d'abord les textes du magistère. Donc, ce n'est pas une coquetterie de ma part, ce n'est pas non plus pour montrer que je suis particulièrement dévot au magistère, c'est parce que c'est un usage. Voilà, on cite toujours en premier les textes du magistère. C'est comme ça, c'est, chez les catholiques, on fonctionne toujours comme ça. Dans les textes du magistère que j'ai présentés, il y a trois niveaux d'autorité. Au moins trois niveaux d'autorité par, je dirais, vous savez, par le type d'obéissance qui est requis de la part du catholique. Donc, il y a le Concile œcuménique, Vatican II, dont vous avez entendu parler très souvent. Il y a, alors le catéchisme, c'est un statut un peu à part, mais il y a les encycliques, donc qui sont des textes des papes, ce qu'on appelle les lettres encycliques, qui sont des textes des papes et qui après le concile, sont les textes qui ont le plus haut niveau, si vous voulez, dans la hiérarchie d'autorité des textes. Et puis, il y a des textes qui ne sont pas du pape, mais qui ont la signature du pape, qui sont des textes de congrégation ou de dicastère, qui sont signés par un cardinal préfet et qui sont contresignés, si vous voulez, par le pape. Donc il y a au moins ces trois niveaux-là, et j'ai mis dans ces textes donc ces trois niveaux d'autorité. Donc le Concile œcuménique, dont je vous ai dit que il n'avait pas expressément traité de questions morales, c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai. Dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, il y a des questions morales. Le Concile s'est tenu au moment de l'épisode en 62 des fusées Pershing et de la baie des cochons. Les allusions à la paix dans le texte sont du Concile. C'est vraiment une question morale en bonne et due forme. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de morale dans le texte du Concile. Il y en a. Il y en a même sur la morale familiale. Mais il n'y a aucun texte, si vous voulez, vraiment de réforme de la pensée de l'Église. Ce sont des textes, ce n'est pas l'apport décisif du Concile, la morale. C'est l'ecclésiologie, je vous l'ai dit, c'est la liturgie, mais ce n'est pas d'abord la morale. Enfin, j'ai cité évidemment le Concile, le catéchisme. Alors, le catéchisme, il y a une partie morale. Si vous avez un peu déjà fréquenté ce texte, il y a une partie morale qui est un commentaire de la Somme de théologie de saint Thomas, qui est une reprise, si vous voulez, de la Somme de théologie de saint Thomas, et qui est un commentaire du Décalogue. La partie morale a été conçue par Benoît XVI, puisqu'à l'époque c'était Joseph Ratzinger, mais a été conçue par Joseph Ratzinger et quelques autres comme d'abord un commentaire des 10 commandements. C'est la déclinaison morale du catéchisme. Il y a deux grandes sources, deux grands axes, le commentaire du Décalogue et l'inspiration de la théologie de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Je dis l'inspiration, c'est-à-dire c'est plutôt synthétique, mais c'est vraiment cette théologie où on va dire une certaine lecture de cette théologie qui en est faite dans le catéchisme. Alors là, dans le catéchisme, contrairement au concile, vous trouverez vraiment énormément de références morales. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire cet après-midi, mais c'est un outil de théologie morale qui est plutôt normatif d'ailleurs. C'est un catéchisme. Bon, donc faut pas lui demander ce qu'il ne ce qu'il n'est pas dans sa vocation de demander, mais il y a une partie morale en bonne et due forme centrée sur les 10 commandements. Ce qui est banal, hein, les catéchismes sont souvent centrés sur le commentaire des 10 commandements. Du credo et des 10 commandements. C'est l'organisation classique des catéchismes, c'est commenter le credo et les 10 commandements. Alors ensuite, j'ai mis quelques textes, pas beaucoup, mais quand même, de lettres encycliques concernant la morale sociale et économique. Donc, j'ai cité, par exemple, Sollicitudo Rei Socialis. Alors, d'abord, Rerum Novarum, par ordre, si je me souviens bien. Rerum Novarum, qui est la grande encyclique sociale du pape Léon XIII. Sollicitudo Rei Socialis, qui est l'anniversaire, en fait, par Jean-Paul II, de cette grande encyclique sociale. Et puis, j'ai dû citer aussi entre les deux Populorum Progressio, hein, donc c'est la trilogie, hein, la trilogie des grandes encycliques économiques et sociales des papes, Rerum Novarum, Populorum Progressio, ça c'est Paul VI, et Sollicitudo Rei Socialis, c'est Jean-Paul II. C'est les trois grands textes encycliques des papes sur ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale, hein, ou l'enseignement économique des papes. Mais vous savez, il faut faire très attention quand on utilise ces expressions, parce que dans la doctrine sociale de l'Église ou les commentaires sur les systèmes économiques, les papes se sont toujours refusés de se prononcer pour ou contre une théorie économique, je ne dis pas une théorie politique, hein, mais une théorie économique, c'est-à-dire que le point de vue des théories économiques, vous ne trouverez pas dans les textes des papes une approbation du capitalisme et un refus du marxisme en tant que théorie économique. Les papes ne se prononcent pas sur ce que devrait être, par exemple, l'adhésion des catholiques à une théorie économique. Tout ce que les papes font, c'est de critiquer les effets négatifs de tel ou tel système économique. Mais il ne se situe pas, en principe, pour ou contre tel ou tel système économique et social. Ils en critiquent les effets pervers, si vous voulez. Hein? J'ai cité en bas de la liste une seule encyclique du pape François, mais qui est l'encyclique la plus connue, c'est-à-dire l'encyclique Laudato Si, qui est la grande encyclique sur l'écologie, et très précisément l'écologie intégrale, qui est peut-être l'encyclique qui marquera le plus le pontificat de François. Hein? Une encyclique fleuve, d'ailleurs. C'est la première fois qu'un pape s'était autant investi sur la question écologique, et ce texte a marqué très, très au-delà du catholique, même très au-delà du monde chrétien. C'est, on pourrait dire, la conscientisation maximale sur la question de l'urgence écologique. Vous avez également, dans ce texte du magistère, alors, c'est plutôt, si je me souviens bien, à peu près aux deux tiers de la liste, vous avez une encyclique de Jean-Paul II qui s'appelle Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Alors là, vraiment, si vous avez envie d'approfondir, il faut lire ce texte. C'est incontournable. Je disais cet après-midi à vos camarades, dans certains séminaires ou dans facultés de théologie catholique en France, le cours de théologie est un simple commentaire de cette encyclique. C'est tout. C'est-à-dire, moi, je pourrais vous dispenser de mon cours et vous dire, lisez Veritatis Splendor et c'est bon. Hein, alors, il se trouve que c'est un texte qui est très ardu, très difficile, et à le lire seul, il y a quand même des points un peu jargonnants, si vous voulez, un peu techniques. Hein, et là encore, je disais à vos petits camarades cet après-midi, quand le texte est sorti, je me souviens d'un commentaire d'un évêque me disant je ne suis pas sûr que tous mes confrères dans l'épiscopat comprendront l'encyclique. Ce n'était pas du tout une insulte, hein. C'était juste le fait que ce texte est assez technique, et même pour des évêques, si je puis dire, voilà, il faut un certain outillage. Donc, moi, je pense que vous pouvez faire l'exercice tout à fait de le lire. Après tout, vous êtes théologienne, théologien en herbe, si je puis dire. Donc, c'est un bon exercice de pédagogie, hein, que d'essayer de se confronter à ce texte qui est un peu jargonnant, qui ne se lit pas sur la plage l'été, ni en préparation du RER. Hein, c'est incontestable, surtout en temps de grève. Hein. Donc, c'est un texte qui est difficile, mais il est très important parce que, pourquoi ? Parce que le pape Jean-Paul II se situe dans ce texte par rapport aux théories éthiques et morales en cours. Donc, c'est très important. Contrairement aux théories économiques, hein, je vous disais tout à l'heure, le magistère se garde bien de se prononcer pour ou contre. D'ailleurs, le magistère est souvent critiqué en disant « on aimerait bien une fois pour toutes qu'on sache si les papes sont capitalistes ou s'ils sont marxistes. Hein. » Mais là, du point de vue des théories économiques, ils ne disent pas. Du point de vue des théories éthiques, si. C'est-à-dire que dans ce texte, très clairement, Jean-Paul II fait le tri entre les théories éthiques qu'il accepte et les théories éthiques qu'il rejette. Donc, c'est très net, là. Hein, c'est vraiment un acte de discernement du magistère, et c'est le grand texte qui inspire actuellement les théologiens. C'est-à-dire, on ne peut pas, moraliste, c'est-à-dire, on ne peut pas faire la théologie morale sans se situer vis-à-vis de ce texte. C'est de toute manière un incontournable. Mais c'est un peu compliqué, surtout qu'il dresse un tableau des théories éthiques en cours, et ça suppose de les... Je dirais que ça ne suppose pas de les connaître, mais ça suppose, si on ne les connaît pas, d'accepter de les découvrir à travers ce texte. Mais voilà, si vous avez envie de pointer un texte du magistère qu'il faut lire, je dirais, à part Laudato Si, c'est celui-là. Hein. Et puis, alors, juste après, je vous ai cité... À mon avis, vous avez le droit de ne pas la lire, ce n'est pas très sympa de ma part, mais Fides et Ratio, donc la foi et la raison, c'est l'encyclique de Jean-Paul II adressée cette fois-ci non plus aux théologiens moralistes, mais aux philosophes. Donc c'est le même exercice que fait Jean-Paul II, cette fois-ci plus aux théologiens, mais aux philosophes. Donc si vous avez une appétence pour la philosophie, ce qui sera tout à fait estimable, à ce moment-là, lisez-le. Mais si on se borne, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, si on se borne à la théologie, c'est très nettement Veritatis Splendor qu'il faut lire. D'accord ? Et puis, en fin de liste, je vous ai cité Amoris Laetitia. Donc, Amoris Laetitia, c'est l'exhortation apostolique post-synodale du pape François sur la famille, donc après le synode sur la famille que j'ai mentionné la dernière fois, ce synode ayant eu lieu en deux étapes, réparti sur deux ans, et c'est le texte signé par François. Comme tous les papes, n'est-ce pas, après un synode, le pape est chargé de publier une exhortation qui est en fait un acte de discernement du pape par rapport au travail du synode. Et ah oui. S'il y a des décisions, c'est là qu'on les trouve.
Alors, une exhortation, c'est toujours après un concile, un synode, pardon.
Non. Non, le pape, s'il veut, il publie une exhortation demain, mais ça, c'est une exhortation post-synodale. Tous les synodes se concluent par une exhortation qui est un texte du pape qui recueille les enseignements des synodes, et qui tranche s'il y a des décisions à prendre. De même que si vous faites un synode diocésain, votre évêque publiera une exhortation après le synode diocésain, ou éventuellement il prendra des décisions.
Et quelle est la différence entre lettre encyclique et exhortation apostolique ?
C'est pas le même niveau d'autorité. C'est-à-dire, mais c'est une très bonne question et je vais l'illustrer. La lettre encyclique, c'est le maximum de niveau d'autorité, si vous voulez. La lettre apostolique, c'est largement en dessous. Alors, C'est intéressant parce que dans cette exhortation post-synodale, le pape François, le chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est encore un peu controversé, c'est le chapitre 8 de l'exhortation à Maurice Laetitia. Dans le chapitre 8, il est notamment question, dans une note de bas de page, de l'admission à la table eucharistique des divorcés remariés. Sous certaines conditions, c'est-à-dire des conditions très, très balisées. Hein. Enfin, c'est une ouverture totalement inédite dans le magistère. C'est très controversé. Et parmi ceux qui ont nourri la controverse, pour tout vous dire, parmi ceux qui se sont opposés à l'exhortation, ils ont fait valoir l'argument, après tout, ça n'est qu'une exhortation post-synodale, ça n'est pas une encyclique. Donc, ça n'a pas le même niveau d'autorité, ce qui est objectivement indiscutable. Le pape François est parfaitement au courant et il s'en fiche complètement, puisqu'il a eu l'occasion de répondre, au moins par oral, que lui, c'était le niveau d'autorité qu'il estimait devoir utiliser après le synode sur la famille. Mmh. Mais c'est un texte très, très important parce que j'ai eu l'occasion de vous le suggérer au moins la dernière fois. Le Concile Vatican II s'est terminé par la volonté de Paul VI sans traiter, bon, je caricature un peu, hein, sans traiter vraiment les questions morales. Hein, parce que le Concile avait déjà donné lieu à beaucoup de controverses sur la liturgie ou sur le dialogue interreligieux. Et Paul VI a dû pousser un basta à l'italienne en disant voilà. Donc, il est incontestable que le synode sur la famille, c'était la volonté par le pape François de rouvrir le concile sur les questions de morale, là où le concile avait été clos par Paul VI. Résultat des courses, la seule chose que François a obtenue, c'est une ouverture, mais c'est déjà important. C'est une ouverture sur l'accès au sacrement des divorcés remariés. Mais si vous vous souvenez de ce synode, c'est un synode qui a suscité beaucoup de polémiques, à l'intérieur en particulier du synode entre pères synodaux. Certains étaient acharnés à refuser cette ouverture, tandis que d'autres, qui étaient proches de l'organisation du synode, souhaitaient l'ouverture aux divorcés remariés, l'accès au sacrement sous certaines conditions. On pourra y revenir si vous voulez, mais voilà. Donc ça, c'est l'exhortation à Maurice Laetitia. J'ai cité également dans la bibliographie des textes alors, qui ont un niveau d'autorité encore bien inférieur. C'est-à-dire, c'est tous les textes qui ne sont pas signés exactement par les papes, qui sont issus, par exemple, si vous regardez, il y a un document qui s'appelle « Donum Vitae ». Alors, « Donum Vitae », ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. C'est un texte qui est issu de la Congrégation pour la doctrine de la foi. La Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est ce qu'on appelait avant le Saint-Office. Et le Saint-Office, avant, s'appelait, pour celles et ceux qui auraient l'idée, le Saint-Office, ça s'appelait l'Inquisition avant. Rien que ça, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, l'Inquisition est devenue le Saint-Office, le Saint-Office est devenu la Congrégation pour la doctrine de la foi, et on était habitué à ce terme. Il se trouve que le pape François a changé encore le nom. Maintenant, ça s'appelle le DDF, c'est-à-dire le Dicaster pour la doctrine de la foi. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction Donum Vitae, qui n'est donc pas un texte du pape, mais qui est un texte validé par le pape, Donum Vitae, le don de la vie, c'est le texte où l'Église catholique se positionne sur les questions de procréation médicalement assistée. C'est-à-dire la question de la pilule contraceptive, la question de la fivette, hétérologue ou homologue. D'accord ? Et comme vous le savez peut-être, la réponse à ces questions est non chez les catholiques dans tous les cas de figure. C'est simple, ça a le mérite d'être simple, la morale catholique, vous voyez, c'est non. Nonum vitae donne les raisons pour lesquelles il est impossible d'utiliser la fivette, etc., la pilule contraceptive, etc. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas la même chose chez nos frères protestants, hein, mais enfin, en tout cas chez certains d'entre eux. Pour les catholiques, c'est non, et donc c'est l'exhortation, c'est l'instruction d'onum vitae qui le dit très clairement et qui en donne les raisons. Il y a un autre texte qui peut vous intéresser, vous voyez, c'est des documents qu'on ne lit pas vraiment l'été à la plage, hein, c'est évident, c'est sûr, hein, qui est un texte qui s'appelle Persona Humana, que vous trouvez aussi dans votre bibliographie juste un peu avant de Onum Vitae, qui doit dater des années 75, je pense. Donc, Persona Humana, c'est même chose, ce n'est pas un texte papal, c'est un texte de la congrégation, de ce qu'on appelait à l'époque la CDF. C'est un texte sur Persona Humana, ça ne le suggère pas comme ça d'emblée, hein, mais c'est un texte sur quelques questions d'éthique sexuelle et familiale. Et c'est un texte très important sur lequel on fonctionne encore, vous voyez, 1975, parce qu'il aborde la question et il se situe par rapport à la question de la nature humaine. Je dis bien la nature humaine. Qu'est-ce qui définit l'essence ou qu'est-ce qui définit l'identité d'une personne humaine? Quelle est sa nature et qu'est-ce qui n'est pas naturel? Qu'est-ce qui est en faveur de la nature ou qu'est-ce qui est contre la nature dans l'éthique sexuelle et familiale? C'est ce texte-là qui, je ne dirais pas d'ailleurs qui nous l'apprend, mais qui synthétise l'apport de la théologie et là, sous un angle normatif. Donc, c'est un texte important. C'est là aussi assez technique, hein. Tout ça c'est des textes de référence, hein. Si vous êtes passionné par les textes du magistère, vous pouvez tous les lire, mais si j'avais envie de vous dire, vous pouvez marquer à côté de la bibliographie des petites étoiles, 3 ou 4, hein. Il y a outre le concile, il y a le Veritatis Splendor, Laudato aussi, et Amoris Laetitia. C'est vraiment, si vous avez envie d'aller y voir de près, c'est ça qu'il faut faire. Mais si vous vous intéressez à la, je ne sais pas moi, effectivement, à la question de la fivette dans le couple marié, par exemple, hein, pourquoi l'Église catholique n'est pas favorable à l'utilisation de la fivette dans le couple catholique marié, il faut aller voir Donum Vitae. Bon, c'est très technique, mais c'est là où c'est expliqué. D'accord ? Bon, donc ça, c'est des textes du magistère, c'est incontournable parce que c'est des textes qui font loi. Bon. Après, j'ai mis en beaucoup plus petit, et je le regrette, mais ce que j'ai appelé des outils pédagogiques. Alors là, c'est plutôt les dictionnaires ou les manuels, même chose, ce sont des textes qu'on consulte. Excusez-moi, je prends un comprimé parce que je commence à avoir la gorge fatiguée. Voilà, donc les outils pédagogiques, vous avez d'abord un dictionnaire qui s'appelle Le Moine. Donc Le Moine, c'est moi. Bon, désolé, c'est vaguement flatteur. De temps en temps, je cède à un léger manque de modestie, mais après tout, le dictionnaire qui est en tête de liste, je ne l'ai pas mis parce que c'était le mien, mais je l'ai mis parce que c'est le plus récent, c'est-à-dire c'est un dictionnaire qu'on a coordonné avec 3 auteurs qui date d'il y a déjà 10 ans, vous voyez, et quand on l'avait publié il y a 10 ans, on s'était dit avec l'éditeur, ce texte aura une durée de vie de 10 ans, et 10 ans après, il sera obsolète. Alors, il se trouve qu'il n'est pas tout à fait obsolète. Il y a des grands articles qui sont tout à fait valables encore aujourd'hui, mais l'éthique, la bioéthique par exemple, a beaucoup changé depuis, et puis tout simplement, on n'a plus le même pontificat. Hein, 2013, c'était encore Benoît XVI. Bon, mais vous pouvez vous y référer pour comme un dictionnaire, hein, pour les notions de théologie morale les plus fondamentales. C'est un dictionnaire qui avait l'avantage d'être écuménique, c'est-à-dire qui qui était fait en coordination avec des catholiques, des protestants et des orthodoxes. C'est l'originalité de ce dictionnaire. Après, j'ai mis dans la liste un lexique, si ma mémoire est bonne, qui est un lexique, alors là, pour le coup, issu d'une congrégation romaine, sur les questions de famille, hein, d'éthique sexuelle et de famille. Donc, c'est un lexique, sont des notions choisies. Il est 2005, donc il est déjà un peu ancien, mais il aborde déjà des notions nouvelles, par exemple la question de la théorie du genre ou des questions comme ça sont déjà présentes dans ce lexique. Donc c'est assez intéressant. Ah, là il y a une voix qui est un petit peu parasite. Gian Adas, si vous pouvez couper votre micro, merci beaucoup. Et donc, vous pouvez vous y référer. J'ai également noté dans la bibliographie un dictionnaire parfaitement profane, si je puis dire, qui est celui de Monique Cantoche-Perber. Alors, c'est un bon dictionnaire de philosophie morale et d'éthique fait par Monique Cantoche-Perber, a longtemps été dirigée l'École normale supérieure. C'est une philosophe spécialiste d'éthique qui a énormément écrit et entre autres qui a coordonné ce dictionnaire qui est un bel outil de philosophie morale, très utile quand, par exemple si on veut s'informer sur les théories éthiques et les grandes notions de la philosophie morale, c'est très très bien. Bon, puis je ne sais plus ce que j'ai cité encore, mais oui, j'ai dû citer un dictionnaire protestant, Denis Müller, je pense, doit être doit être cité. Ça doit s'appeler, comment ça s'appelle leur truc déjà, je ne sais plus, parce que je n'ai pas la biographie sous les yeux, vous l'avez, mais c'est Denis Müller qui en est l'auteur, et j'ai voulu marquer un petit peu, ça doit s'appeler Introduction à l'éthique, ou quelque chose comme ça.
Oui.
Ah, c'était ça. Ouais. Et donc là, je voulais vous montrer, vous indiquer un texte fait par nos frères protestants, parce que ils n'ont pas, sur tous les sujets, ni la même méthode, on va dire, ni d'ailleurs les mêmes conclusions sur l'éthique que nous, catholiques. Hein. Mais dans une perspective écuménique, c'est important, je pense, de le montrer. Alors ensuite, j'ai donné juste ce que j'ai appelé cours Emmanuel. Cours Emmanuel, c'est très simple. Vous pouvez, dans 30 secondes ou dans 10 secondes, arrêter l'écran et l'enregistrement et vous dispenser avantageusement du cours que je suis en train de vous donner, puisque dans cours Emmanuel, je vous ai donné quelques grands cours de théologie morale fondamentale. C'est ce que je suis incapable de vous faire, parce que moi, je vous fais juste une initiation. Mais nous n'avons que quelques heures ensemble. Les cours que j'ai mis là, c'est des cours qui sont des cours de fac en théologie pour des gens qui font une introduction à la théologie morale fondamentale sur 6 mois. D'accord ? C'est-à-dire, je ne sais pas moi, c'est des formats de 30 heures hein, de cours, etc. À la louche. Ça veut dire que si vous êtes intéressé par la théologie morale fondamentale et si vous dites le père Lemoine, c'est bien ce qu'il fait, mais ce n'est pas suffisant, vous pouvez vous référer aux cours ou aux manuels que j'ai indiqués là, qui sont tous très bons. Le plus ancien étant celui du père Pinkers, qui est en haut de la liste, qui est notre maître à tous, hein, qui nous a tous influencés sur la théologie morale. C'est un ancien un dominicain qui a très longtemps été professeur de théologie morale à Fribourg. Ensuite, j'ai cité le cours de Jean-Louis Bruguès, c'est aussi un dominicain. Bruguès, qui a été d'ailleurs lui aussi prof de théologie morale à Fribourg. Alors celui-là, je peux vous le recommander spécifiquement parce qu'il est facile à lire. Et c'est une assez belle introduction à la théologie morale. C'est bien écrit, ce qui ne gâte rien. Et donc, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller lire le cours du père Bruguès. OK. Après, je vous ai mis en bas de la liste Alain Thomasset, alors lui, il est jésuite cette fois-ci, vous voyez, dominicain et jésuite. Donc, les jésuites, donc Alain Thomasset, Ce que j'ai mis là, il a publié plein de choses, Alain. Là, ce que j'ai mis là, c'est son cours au Centre Sèvres. Donc, si vous voulez vous le dire, ben, je vais lire un grand cours de théologie morale fondamentale. Voilà, celui qui enseignait au Centre Sèvres, ben, vous avez le cours d'Alain Thomasset. C'est moi qui était l'éditeur il y a déjà, vous voyez, quelques années. Et puis, j'ai dû vous mettre un seul, alors là, vraiment, j'en suis gêné, presque honte, un seul texte de Xavier Thévenot.
Ouais.
Bon, ça s'appelle « Morale fondamentale ». En fait, c'est son cours. Là aussi, c'est un cours. C'est son cours à la Cato de Paris. Donc, c'est des notes d'étudiants, d'ailleurs, qui ont été rassemblées et publiées. J'ai voulu mettre Thévenot parce que je vous recommande très chaleureusement les ouvrages de Xavier Thévenot. S'ils vous tombent entre les mains, ils ne vous tomberont pas des mains parce que ça peut être un compagnon de lecture très, très intéressant et très fructueux, aussi bien sur les grandes notions de théologie qu'il a énormément publié. Il a publié également des ouvrages de pastoral, des ouvrages de vie spirituelle. Et donc, c'est Xavier Thévenot. Xavier Thévenot reste le théologien moraliste français le plus connu après Vatican II. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de l'indiquer. Je n'ai indiqué que son cours de morale, mais vous pouvez, avec beaucoup de sécurité et de profit, lire les ouvrages de Xavier Thévenot. Ils sont multiples. Ils sont multiples. Vous pouvez même le googliser, aller sur sa fiche, etc. C'est une œuvre prolifique et abondante, d'excellente qualité. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas trop jargonnant. Et donc, vous pouvez le lire avec profit facilement. Et c'est super, Thévenot. Donc, voilà. Si on avait toujours Xavier Thévenot pour enseigner la théologie morale, on serait assez tranquille. Malheureusement, il n'y en a plus. Bon. Je vous recommande de faire un exercice qui est toujours utile et qui fait partie, à mon avis, de la démarche de ce cours. Si vous avez le temps, pour les Parisiens d'entre vous, je n'ose pas dire pour les provinciaux parce qu'il faut voir, mais si vous avez la possibilité d'accéder à la Procure Paris ou à une des grandes procures françaises, faites un test. Allez au rayon, d'abord cherchez à la Procure le rayon moral. Cherchez-le. Si vous le trouvez, vous m'appelez. Enfin, sinon, vous allez le trouver parce qu'il ne faut pas non plus que j'exagère trop. Hein. Mais vous cherchez le rayon moral ou éthique. C'est à peu près le même. Et puis, vous regardez. Faites le test, vous regardez ce qui est publié. Vous regardez. Et si vous voulez, d'ailleurs, on en parle, hein, prochain cours. Si vous avez le temps pour la semaine prochaine, on en parle. Vous me direz ce que vous avez trouvé. Et je vous conseille de regarder surtout la date de publication des ouvrages qui vous seront proposés à l'achat aujourd'hui à la Procure Paris en 2023. Vous serez étonné. Je ne vous dis pas pourquoi, mais vous serez étonné. Et puis alors, je vous recommande aussi, allez, je vais vous donner une petite avant-première. Normalement, vous serez étonné par la petite taille du rayon. Bon, mais vous irez voir aussi les livres qui en ce moment sont publiés, y compris d'ailleurs les miens, mais sont publiés à la Procure, vous savez, sur les grandes, sur la plage centrale de la Procure, vous voyez, et repérez, essayez de voir où est la morale, où sont les ouvrages de morale et les thèmes, les auteurs qui sont abordés. Et vous faites cet exercice et vous verrez, c'est très instructif sur, je dirais, la quantité. Et j'ose dire aussi parfois, peut-être pas la qualité, il ne faut pas exagérer, mais la quantité, on va dire la place, tout simplement. La place qu'occupent les questions de morale et d'éthique dans la théologie française en ce moment. Ce qui se vend. C'est très intéressant quand même pour voir ce qu'on occupe dans le champ intellectuel de la théologie et même de la culture chrétienne française. J'aurais pu mettre des ouvrages comme ça dans la bibliographie, mais vous pouvez compléter la bibliographie vous-même en allant à la procure, vous regardez ce qui se publie, c'est très intéressant. Et puis faites l'exercice de vous dire, tiens, qu'est-ce qui a été publié, qu'est-ce qui est encore présent, même depuis Vatican II. Bon, je l'ai fait il y a 2-3 ans, vous voyez, et j'étais tout à fait surpris, et depuis, j'arrête pas de dire ça aux étudiants, faites le test. Bon, voilà pour les bibliographies, j'ai passé un peu de temps, mais je pense que c'est important parce que ce sont des outils de référence. Une fois que vous avez ça, vous l'avez pour la vie, si je puis dire, si jamais vous êtes intéressé par la théologie morale. Et donc, c'est simplement succinct, ça n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Voilà. Alors, je voudrais maintenant, après vous avoir présenté la bibliographie, aborder le thème du jour, et même un peu plus que l'aborder, qui concerne la Bible et la morale. Et puis, normalement, si on a un peu de temps, on commencera à parler de la morale des pères de l'Église. Alors, Bible et morale, pourquoi je fais ça? Donc, vous voyez, mon projet, c'est nous sommes partis de Vatican II, et à la fin du parcours, nous allons revenir à Vatican II. Aujourd'hui, nous faisons un grand bond dans l'histoire, un grand bond en arrière. Après vous avoir parlé de Vatican II la dernière fois, je vais maintenant vous parler de la Bible, les liens entre Bible et morale, c'est-à-dire finalement une des sources de la révélation. Alors, comme je sais que vous avez déjà eu le cours sur la révélation, je suis parfaitement sûr que vous savez de quoi il s'agit quand je parle des sources de la révélation, la Bible étant, comme vous le savez aussi bien que moi, une de ces sources. Bon, je peux difficilement faire moins que de vous parler du lien entre Bible et morale. Je pourrais d'ailleurs commencer par pratiquement une anecdote, mais les relations entre biblistes et moralistes ont rarement été au beau fixe. C'est-à-dire que c'est difficile pour un théologien moraliste de s'occuper de Bible, et c'est difficile pour un bibliste de s'intéresser à la théologie morale. Mais il faut bien le faire, parce que dans la Bible, il y a beaucoup de questions morales. On pourrait aborder les choses de la manière suivante. D'abord, il y a une question de méthode. Si vous faites l'exercice qui est très très facile, de prendre un texte, n'importe quel texte du magistère, y compris le catéchisme, vous ouvrez, vous regardez, y compris l'encyclique Veritatis Splendor, ou même un grand texte du pape, des papes, sur la morale. Et puis vous regardez quel usage le texte du magistère fait de l'Écriture sainte. Et là, vous allez, Oresco reference, vous allez remarquer que c'est typique dans les textes du magistère. Le magistère produit une idée. En général, d'ailleurs, pour le magistère, il produit une norme, parce que c'est en gros son travail. Et pour confirmer cette norme, pour confirmer cette réflexion, va chercher dans le texte de l'Écriture sainte une justification, un point d'appui. C'est-à-dire que le texte sacré, le texte de l'Écriture sainte, devient un prétexte. En tout cas, c'est le grand risque. Encore une fois, par exemple, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi parce que c'est très peu abordé dans le magistère, qu'est-ce que, en morale, nous pensons du suicide, la question éthique du suicide. A-t-on le droit de se suicider? Pourquoi? Etc. Enfin, tout ça est très documenté. Alors, Ben, je ne sais pas ce que vous, comme catholique, vous pensez du suicide, mais vous avez sûrement des idées. Et alors après, pour justifier, pour expliquer, pour soutenir, pour appuyer ces idées, vous vous dites « Ah, mais que dit l'Écriture ? Je vais regarder dans l'Écriture ce qui va vérifier mon propos. » C'est ce que fait systématiquement le magistère, c'est-à-dire que l'Écriture vient appuyer une décision du magistère. C'est-à-dire que quand les moralistes lisent l'Écriture, ils pensent d'abord en théologien, premièrement, et deuxièmement, ils vont chercher dans la Sainte Écriture une justification de leur réflexion. Ce qui est une erreur méthodologique grave que tout le monde fait, souvent de bonne volonté. Au lieu de laisser parler le texte de l'Écriture sainte, que nous dit la Sainte Écriture sur ? D'abord, on réfléchit et ensuite, on se sert de l'Écriture pour justifier notre réflexion ou notre décision. C'est ce qui rend les relations entre théologiens, moralistes notamment, et exégètes, par exemple, assez épouvantables, parce que les exégètes nous disent souvent, en fait, vous ne vous intéressez pas à l'exégèse. Vous ne vous intéressez pas à la Bible. Vous raisonnez comme des moralistes. Vous n'avez pas vraiment besoin de la Bible. Vous faites pratiquement de la morale sans la Bible. Ah, mais vous vous souvenez qu'il y a une Bible et quand même, vous allez chercher après dans la Bible une citation extraite du contexte qui vient justifier ce que vous pensez. C'est-à-dire, on vient dire, ah ben, comme le dit l'apôtre Jean en tel ou tel... comme le dit l'évangéliste Jean, en tel ou tel passage, voilà. C'est-à-dire que l'Écriture vient soutenir votre réflexion. C'est-à-dire qu'on fonctionne à l'envers. On ne laisse pas parler le texte saint, on l'exploite. Mais ça, c'est une erreur que même le magistère fait de toute bonne foi, mais c'est une erreur qu'il faudrait corriger chez une première année de théologie déjà, hein. Donc, en principe, ce n'est pas à faire. Ça, c'est une première remarque méthodologique importante parce que c'est un défaut dans lequel on tombe trop facilement. Avant de faire la pause, je vais juste poser, c'est qu'à de le dire, le propos que je veux vous tenir ce soir sur Bible et morale. La question de Bible et morale se pose souvent sur la manière suivante. Existe-t-il une morale biblique ? Quelle est la morale de la Bible ? Peut-on extraire de la Bible une morale ? Y a-t-il une morale catholique ou une morale chrétienne à partir de la Bible ? C'est-à-dire, peut-on se servir de la Bible comme fondement d'une morale catholique que, par exemple, on trouverait dans les encycliques, dans le catéchisme ou... Oui, dans des textes officiels. La réponse est non. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en fait, en lisant la Bible, que dans la Bible, il n'y a pas... D'ailleurs, Bible, ça veut dire, Biblia, ça veut dire les livres. Hein. De même qu'il y a des livres bibliques, il y a des morales. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de modèles éthique, une pluralité de modèles éthiques proposés par la Bible. Il ne s'agit pas pour moi de dire que la Bible est complètement fractionnée et qu'elle est complètement disséminée. On peut tout à fait utiliser le modèle de dire qu'il y a une unité dans la diversité. Il y a une unité dans la diversité, mais il y a vraiment une diversité de modèles éthiques dans la Bible, de sorte que le concept de morale biblique est un concept qu'il faut forcément écrire au pluriel. J'ajoute, comme vous l'avez vu sûrement précisément dans vos cours de Bible, que pour pouvoir... comme théologien, travailler sur les questions morales dans la Bible, encore faut-il appliquer à la Bible une exégèse sérieuse, c'est-à-dire une exégèse historique, et même une exégèse historico-critique. C'est-à-dire, ah, la Bible parle d'un point de morale. Oui, mais quel texte? Où? Quand? Écrit comment? Dans quel contexte historique? Donc, il faut appliquer, nous sommes obligés aujourd'hui, après Vatican II, et heureusement que nous sommes obligés, d'appliquer à la Bible ce qu'on appelle la critique historique et textuelle, c'est-à-dire le texte sacré, c'est aussi un texte. Et donc, on considère que le texte sacré doit pouvoir se lire comme avec la même méthode intellectuelle et universitaire qu'un texte de Racine ou de Flaubert ou de La Fontaine, même s'il est évident qu'il ne s'agit pas que d'un texte humain, mais qu'il s'agit d'un texte humano-divin révélé. Mais si c'est un texte humano-divin, révélé, c'est aussi un texte humain, donc, qui doit être soumis à la critique historique. Ceci pour comprendre des textes, je vais en reparler tout à l'heure, aussi variés, par exemple, dans Saint Paul, que « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Si je dis ça en 2023, en dehors du contexte historique dans lequel ça a été pensé par Paul, ou probablement pas par Paul d'ailleurs, mais par des disciples de Paul, « Femmes, soyez soumises à vos maris », comment voulez-vous qu'on reçoive ça en 2023 ? Avec la critique féministe actuelle, post-féministe, néo-féministe, l'égalité, tout ce que vous voulez. Donc, le texte sacré, c'est un texte. Il a donc besoin d'un regard historico-critique. Je ne veux pas parler de l'herméneutique parce que je n'ai pas envie de vous parler des théories bibliques, ce n'est pas mon propos. Donc, pour l'instant, je me contente de la critique historico-critique, voilà, de la méthode historico-critique, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour recevoir un texte qui nous parle de morale aujourd'hui. Et ce qu'on constate lorsqu'on fait ça, c'est qu'effectivement, il y a une pluralité, il y a plusieurs modèles éthiques présents dans le texte révélé. Et juste après la pause, mon propos, ça va être de vous montrer quels sont ces modèles éthiques dans le Nouveau Testament. Ou au moins de vous les suggérer. On pourrait faire le travail pour l'Ancien Testament, mais là, on serait parti sur des heures et des heures de cours. Donc, comme le Nouveau Testament est infiniment plus succinct que le Nouveau, que l'Ancien, je vais commencer à vous montrer, de mettre en évidence que dans les Évangiles et dans les Épîtres de Paul, coexistent plusieurs modèles éthiques qui rendent, à mon sens, mais je ne suis pas le seul à le dire, impossible l'idée de dire c'est quoi la morale de la Bible ? C'est quoi la morale de la Bible ? J'en sais rien. C'est-à-dire, quel texte ? Quel passage ? Quel auteur ? Quel genre littéraire ? Quelle date ? C'est dans un psaume ? C'est le Cantique des Cantiques ? C'est la Genèse ? C'est Saint Paul ? C'est les actes des apôtres. Est-ce que tout ça, ça se vaut? Non. Est-ce que il y a une unité? Oui, mais il y a une unité dans la diversité. Donc, on va illustrer ça après la pause. Là, il est à peu près 9h-5, donc on fait 5 bonnes minutes de pause pendant lesquelles vous pouvez vaquer à vos occupations tout à fait librement, garder votre son coupé et, si vous le souhaitez, votre image aussi. Voilà, à tout à l'heure. Ok, on reprend, s'il vous plaît. Si vous êtes là, si vous le souhaitez, si tout ça ne vous embête pas trop. Ça va, ma sœur? Mais vous étiez là la semaine dernière, sans Philomène?
Non, je n'étais pas.
Ah oui, vous n'étiez pas là, voilà, c'est ça. Vous êtes de quelle congrégation?
La Visitation à Metz.
La Visitation à Metz?
Oui.
Vous avez perdu un auxiliaire à Metz qui s'en va... Qui s'en va où déjà? Au Mans.
Ah, au Mans, oui.
Oui, oui.
Monseigneur Jean-Pierre Villemain.
Oui, moi j'ai surtout connu Monseigneur Raffin. Vous avez connu, vous, Raffin? Non, mais non, c'est plus ancien déjà. Metz, il y a une magnifique...
J'ai connu Monseigneur Raffin.
Vous avez connu Monseigneur Raffin? Ah, oui, c'est quelqu'un de...
Mais depuis 2010, donc j'ai connu Monseigneur Raffin.
Raffin, ben voilà, voilà. Il y a une superbe maîtrise à Metz. Vraiment. Extraordinaire, les liturgies et la cathédrale, c'est somptueux, c'est une des plus belles maîtrises de France. Ça, c'est très, très beau.
Merci beaucoup.
Non, mais j'ai des souvenirs comme ça assez précis de Metz. Alors, est-ce que tout le monde sont là, comme on dit en bon français? Bon, alors, je terminerai peut-être un peu avant 10 heures parce que j'ai un mail hyper urgent et assez long et assez pénible à envoyer avant la fin de la journée. Mais bon, on avance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent ou est-ce que c'est à peu près clair? Ça va? Bon.
Oui, s'il vous plaît.
Alors, oui, j'entends une voix. C'est Marie-Christiane? Non, c'est
Béatrice.
Béatrice. Oui. Béatrice, alors que je ne vois pas, que j'entends, mais que je ne vois pas.
J'arrive pas. Je suis étonnée que.
Oui.
Que les textes du que le magistère se fasse ce type de raisonnement que vous avez dit.
Oui,
ça paraît un peu du béaba de ne pas faire ça.
Non. Non, bah non, c'est pas si béaba, c'est ce que ça, c'est et le pour le magistère, c'est presque une évidence. C'est-à-dire le rôle du magistère, c'est de trancher, si vous voulez. La fonction du magistère, c'est la fonction régulatrice.
Mmh.
Hein? Et spontanément, en exerçant la fonction régulatrice, le magistère a un petit peu tendance, si je suis un petit peu dur, à instrumentaliser la Bible.
Bah oui, c'est.
Oui, c'est dommage. C'est dommage. Mais pas seulement la Bible, hein, mais les grands auteurs aussi. C'est-à-dire, le magistère dit quelque chose, et puis en note de bas de page, comme le dit saint Thomas d'Aquin, ah bon? Sauf que lorsqu'on va voir saint Thomas d'Aquin, il ne dit pas toujours ça. Voilà. Donc, c'est. Voilà, oui, non, mais c'est si vous voulez, c'est la limite des grandes instances de discernement institutionnel, comme le magistère, toujours tendance un petit peu, si vous voulez, à sous-traiter les affaires. Hein. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez. C'est une vraie question de théologien, de théologienne, c'est quel usage le magistère fait de l'Écriture sainte sur les questions de morale. C'est très intéressant hein. Parce que c'est pas n'importe quel usage, c'est pas voilà. Alors. Mon propos tente de vous dire qu'il existe donc dans la Bible, et je vais illustrer dans le Nouveau Testament, une diversité de modèles éthiques. On ne doit pas s'en étonner d'ailleurs, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, donc je vais illustrer par le Nouveau Testament, parce que c'est quand même infiniment plus facile que l'Ancien. Et on va commencer par au moins certaines épîtres de Paul, et notamment les épîtres aux Thessaloniciens. Pourquoi je donne comme exemple, toujours je donne les Thessaloniciens? Parce que, si vous vous rappelez justement de vos cours de Bible, les épîtres aux Thessaloniciens, c'est quand même les textes les plus anciens du Nouveau Testament. C'est-à-dire, ce sont les textes qui sont les plus proches de Jésus. C'est quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. Quand je dis ce sont les textes les plus anciens du Nouveau, c'est-à-dire que si vous rappelez ces textes, si vous les lisez ou si vous les entendez à la messe de temps en temps, la croyance en la résurrection des corps, en la résurrection de la chair, n'est pas encore tout à fait stabilisée. Pourquoi ? Parce que cette génération de tout premier chrétien attendait le retour du Christ de leur vivant. Le contexte de Thessaloniciens, c'est celui de l'imminence du retour du Christ en gloire. Et donc, c'est d'ailleurs, enfin moi je trouve qu'un chrétien d'aujourd'hui a de quoi être stupéfait en lisant Thessaloniciens. Parce que, au fond, ces gens sont convaincus que Jésus revient et qu'ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir. Parce que Jésus va revenir avant leur mort. Ce qui veut dire que pour saint Paul, dans Thessaloniciens 1 et 2, finalement, la question de la morale ne se pose pas. Il n'y a pas, si vous voulez, si je suis, comme je dis ce matin, en étant caricatural, etc., il n'y a pas de morale dans certaines épîtres de Paul parce que c'est trop tôt. Parce que dans certaines épîtres de Paul, on attend le retour du Christ en gloire de façon imminente. Et vous avez par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes marié, dit Paul, c'est bien. Si vous n'êtes pas marié, dit Paul, c'est pas grave. Ne vous mariez pas. Vous vous souvenez de ce texte? Mais si on le lit en 2023, de quoi on a l'impression? On a l'impression que Paul relativise la question du mariage. Ou bien d'ailleurs qu'il relativise la question du célibat. On a même l'impression que Paul ne sait pas ce qu'il dit au fond. Ah, vous êtes marié, c'est bien. Vous n'êtes pas marié, tant pis. Vous ne mariez pas. Mais alors quoi? Non, mais ça veut juste dire que dans le contexte dans lequel il l'a écrit, Jésus revient avant la mort de cette génération, donc le mariage, c'est second. Ne pas se marier, c'est second. On n'aura même pas le temps de vivre jusqu'à la fin. Donc, dans ces textes-là de Paul, la question de la morale ne se pose pas encore. La question de la morale ne se pose, y compris d'ailleurs dans certains textes de Paul, ce matin, d'ailleurs, je crois qu'avec vos camarades, j'étais un petit peu trop rapide. Bon, tant pis, c'est fait. La question de la morale chez Paul ne se pose que à partir du moment où l'Église primitive s'inscrit dans l'histoire. Au fond, que découvrent les premiers chrétiens? Découvrent que Jésus, il n'est pas là. Il ne revient pas. Et donc, des chrétiennes et des chrétiens meurent. Une génération s'efface, une autre arrive. Et donc, petit à petit, les chrétiens, les premiers chrétiens, s'habituent à s'inscrire dans l'histoire. Et à partir du moment où les chrétiens commencent à s'inscrire dans l'histoire, il faut faire de la morale, parce que il faut répondre aux questions du temps, aux questions autour de soi. Donc l'exemple des lettres de Thessaloniciens est intéressant justement parce que il décrit un climat d'urgence qui ne laisse pas de place pour la morale, tandis que d'autres textes de Paul vont pouvoir le déployer. Vous avez des textes de Paul sur, par exemple, un texte très connu de Paul, c'est c'est un genre littéraire particulier qu'on appelle un catalogue. Alors, le catalogue des vices, c'est les ivrognes, les dans une mauvaise traduction, les ivrognes, les pédérastes, les etc. n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors ça, c'est un texte moral. Mais c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans la même ambiance que l'ambiance décrite dans « il n'y aura pas de résurrection, etc. » parce que tout simplement, la première génération va voir de ses yeux de chair le retour du Christ. On vous l'a certainement dit aussi dans le cadre de la théologie des sacrements. Pourquoi baptiser des petits-enfants? Pour les tout premiers chrétiens, ça n'a aucun sens. Parce que dans un contexte de retour imminent du Christ, on n'aura même pas le temps de le faire. La question du pédobaptême ne se pose que parce que le Christ ne revenant pas tout de suite, eh bien, il faut bien organiser la vie sacramentelle des premières communautés. Et donc se pose la question, comment vont être sauvés les petits-enfants qui ne sont pas baptisés? Donc, on va se poser la recommandation du pédobaptême. Mais que ce soit, voyez, pour la théologie sacramentelle ou pour la théologie morale, ces théologies-là n'ont de sens que parce que peu à peu, l'Église s'installe dans le long terme de l'histoire des hommes, d'ailleurs de l'histoire de l'Église, finalement. C'est comme ça que surgit la question de la morale. Je donne aussi souvent un exemple qui est alors beaucoup plus, qui est encore de saint Paul, mais d'ailleurs on ne sait pas très bien si c'est de saint Paul. Je l'ai cité tout à l'heure en vous disant « Femmes, soyez soumises à vos maris hein ». C'est ce qu'on appelle, alors c'est Colossiens, vous savez que les épîtres aux Colossiens, on ne pense pas que ce soit une épître de Paul. Hein. On vous l'a certainement dit, dans l'Antiquité, il n'y a pas de notion de propriété littéraire. Donc, lorsqu'on parle d'une épître de Paul, ça peut tout à fait être une épître écrite par des disciples de Paul ou un collège d'auteurs qui se réclament de Paul sans que ce soit Paul lui-même, ce qui est probablement le cas de l'épître aux Colossiens. Mais là, pour le coup, vous avez ce qu'on appelle, c'est aussi un genre littéraire, c'est ce qu'on appelle les codes domestiques. Bon, les codes domestiques, puis on trouve ça chez, on retrouverait ça dans d'autres épîtres, on retrouverait ça dans les épîtres de Pierre, hein, la Prima Petri, etc. Il est question de ces codes domestiques, de l'organisation de la vie de la maison, la domus, et puis la vie domestique, la vie de la famille, l'organisation du rapport entre l'homme et la femme. Dans le mariage. Donc, vous voyez, on passe d'une épître où le mariage n'a aucun intérêt parce que Jésus revient, si je caricature, à une épître où, femmes, soyez soumises à vos maris parce que le retour du Christ n'a pas lieu et qu'il faut commencer à organiser la vie des citoyens chrétiens, j'allais dire, au sein de la cité des hommes, où la question du mariage et de la spécificité du mariage chrétien se pose. Bon, ça, c'est une première distinction. Vous voyez, à l'intérieur même des épîtres de Paul, entre les plus anciennes et puis les épîtres attribuées à Paul, par exemple, donc les deutéro-pauliniennes, la question de la morale n'est pas la même. Il y a déjà une diversité de modèles éthiques dans les textes de Paul ou attribués à Paul. Et on aurait la même réflexion à faire pour les deux épîtres de Pierre, dont, si ma mémoire est bonne, parce que l'exégèse, ça change tous les 5 ans, il n'y a à peu près que la première de Pierre qui est de Pierre. Bon, ça c'est pour les épîtres. Après, si on regarde les évangiles, on peut faire la même analogie avec les Actes des apôtres et l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est, on le date habituellement on est entre 60 et 80, à peu près, 60, 80, 90 après Jésus-Christ. Ben, voyez les chiffres, 60, 80, 90 après Jésus-Christ. Jésus n'est pas revenu. Donc, inscription de l'Église dans l'histoire, donc se pose la question de la morale. L'évangile de Luc est présenté habituellement comme l'évangile de la miséricorde. Hein, c'est le, y compris d'ailleurs dans les textes du magistère, le pape François, lorsqu'il a parlé de l'année de la miséricorde, s'est référé à saint Luc. Saint Luc est l'évangéliste de la miséricorde. Pourquoi ? Parce que les chrétiens s'inscrivant dans la cité, la question de Luc est de se demander quelle va être l'identité du chrétien, comment va-t-on reconnaître, comment va-t-on identifier un chrétien au sein de la cité grecque, au sein de la cité des hommes, qui a d'autres mœurs, qui a d'autres comportements, d'autres valeurs, etc. Ben, la réponse de Saint-Luc, elle est claire. La morale de Saint-Luc, l'identité chrétienne de Saint-Luc, chez Saint-Luc, c'est une morale de la miséricorde. On reconnaît un chrétien à ce qu'il pratique la miséricorde autour de lui. C'est-à-dire, c'est une morale au-delà de la morale, la miséricorde. Je vais chercher ma batterie parce que je vois que mon ordinateur est en train de se vider, que personne ne sort. Je reviens. Voilà. Donc, premier modèle éthique dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Évangile, la miséricorde, Saint-Luc. Passons à Matthieu. Alors, Matthieu, normalement, vous avez certainement une petite idée de ce que je vais vous dire. À qui s'adresse Matthieu ?
Aux Juifs.
Oui, hein, aux communautés d'origine juive. Hein, il y a deux types de communautés, les communautés d'origine juive et les communautés pagano-chrétiennes, c'est-à-dire grecques. Voilà. C'est d'ailleurs la problématique, vous savez, de saint Paul à Athènes, hein, le Dieu inconnu. Ça, c'est la problématique de Paul. Ce n'est pas la problématique de Matthieu. La problématique, le Jésus, le portrait de Jésus, si vous voulez, que nous fait Matthieu, c'est un Jésus qui est soucieux du dialogue avec les Juifs, donc qui est soucieux de la question de la loi, de la Torah. Probablement peut-on dire d'ailleurs que l'évangile le plus moraliste, peut-être pas le plus moralisateur, mais l'évangile le plus moraliste, ou le Jésus le plus moraliste parmi les quatre évangéliste, c'est l'évangile de Matthieu, parce qu'il y a au centre de la réflexion de Matthieu la question de la loi. Jésus doit montrer à ses interlocuteurs juifs que les chrétiens se soucient de la place de la loi dans la nouvelle religion, si vous voulez. C'est « je ne vais pas modifier un iota de la loi. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu pour accomplir ». Donc là, on a probablement parmi les quatre évangélistes celui qui habituellement semble le plus moraliste des quatre. Pour la raison que j'ai dite, à savoir la proximité avec le peuple de la première alliance. Bon. La miséricorde chez Saint-Luc, la loi chez Matthieu, ce qui en effet en fait un plus que les autres, un moraliste. Chez saint Jean, alors saint Jean, vous le savez comme moi, saint Jean est très à part. Vous avez des textes chez saint Jean qui n'existent nulle part ailleurs, dont on ne sait pas d'ailleurs très bien que faire parfois du point de vue de la vérification historique. Hein. Ce n'est pas si simple. On pourrait même dire, alors les spécialistes de Saint-Jean sont loin d'être tous d'accord, évidemment, mais qu'il y a des textes de Saint-Jean qui sont on en est à peu près sûr, des constructions théologiques, mais qui n'ont pas forcément de base historique. En tout cas, le portrait que Jésus, de Jésus par saint Jean, ce n'est pas du tout un Jésus qui se soucie de morale. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La question centrale de saint Jean dans son évangile, c'est la question du salut. Et pour obtenir le salut, on devient disciple du Christ et on rejoint la communauté des sauvés, finalement. L'Église, c'est la communauté des sauvés, c'est la communauté de ceux qui obtiennent le salut en suivant Jésus. Donc, la question centrale de Jean, c'est le salut. Ce n'est pas la question de la morale chez saint Jean. Regardez l'Évangile, je ne sais pas moi, la Samaritaine, tu as eu cinq maris, je sais. Tu as eu cinq maris, mais le problème n'est pas d'avoir cinq maris, le problème c'est de trouver l'eau vive. Hein, je suis cette eau, je suis celui qui te parle. Et si tu crois en moi, voilà, si tu crois en moi, tu seras sauvé. D'accord, tu as eu cinq maris. Mais vous voyez à quel point, chez saint Jean, je veux dire, la morale est seconde, elle n'est pas secondaire, elle est seconde. La question, c'est la suite de Jésus, c'est croire en Jésus, ça c'est la question de saint Jean. Donc, oui, on peut dire que chez saint Jean, la morale est relativisée. Cela dit, il faut être prudent quand on dit ça, mais tout de même. Donc, on pourrait dire que c'est le salut par la suite du Christ et l'adhésion à la communauté des gens, des sauvés, la communauté des premiers chrétiens. Pour Jean. Reste Marc, qui est l'évangile le plus court. Alors, la théologie de Marc, c'est une théologie qui est avant tout fondée sur l'idée de guérison. Donc, la morale de l'histoire, si je puis dire, chez saint Marc, c'est un évangile de la guérison. Le grand thème de Marc, si c'est un thème moral, oui, c'en est un. Hein. La morale de Marc, c'est la guérison. Et c'est la guérison par le miracle. Et lequel miracle est présenté par Jésus lui-même dans l'Évangile comme un signe. Je guéris parce que je vous donne un signe. Le miracle, c'est un signe donné aux gens qui ne croient pas pour qu'ils croient dans le royaume qui vient. C'est pour ça que Jésus guérit. Donc, on peut finalement affecter à chaque évangéliste un thème, la guérison chez Marc, le salut chez Jean, la loi chez Matthieu, la miséricorde chez Luc. Vous voyez que des quatre, incontestablement, c'est Matthieu qui est le plus moraliste, si on réduit la morale à la loi. Mais si on se dit que la miséricorde est une pratique chrétienne, la morale, ce qu'elle est d'ailleurs, la morale de Luc, c'est une morale de la miséricorde, c'est-à-dire la morale au-delà de la morale. Donc là, vous voyez, dans ce qu'on appelle habituellement l'évangile tétramorphe, hein, donc l'évangile en quatre formes, si vous voulez, morphée en quatre. Chaque évangile a une coloration morale différente. Vous êtes chrétien, soyez miséricordieux. Vous êtes chrétien, soyez attentif à la loi. Vous êtes chrétien, prêchez la guérison. Vous êtes chrétien, proposez aux gens d'adhérer à la communauté des sauvés, à la communauté du disciple. Chez saint Jean, au fond, c'est rejoignez la communauté du disciple bien-aimé. Hein ? C'est l'idée centrale. Donc, vous avez quatre modèles éthiques différents. Tout ça est parfaitement complémentaire. Ce n'est pas du tout une dissonance, hein, ou une cacophonie. C'est une unité dans la diversité. Mais vous voyez bien qu'on ne vous reconnaît pas tout à fait chrétien de la même manière. Et ce que je voulais vous faire entendre, c'est que la préoccupation morale, elle émerge dans les premières décennies parce que l'Église s'inscrit peu à peu dans l'histoire. Les questions morales ne se posent que parce que l'Église s'inscrit dans l'histoire, comme la question des sacrements. Le petit exercice que j'ai fait devant vous, mesdames et messieurs, qui concerne aussi bien l'Évangile que les questions que les épîtres de Paul, et on pourrait aller voir la question des épîtres de Pierre, c'est très intéressant aussi, mais on n'a pas le temps. On pourrait le faire pour l'Ancien Testament. Hein? Par exemple, il y a un modèle éthique, je ne donne qu'un exemple pour vous dire dans l'Ancien Testament, il y a un modèle éthique dans le Premier Testament qui est celui de, allez, je vais faire un anachronisme, qui est celui de la révolution sociale ou de la contestation sociale. La contestation sociale, c'est les petits prophètes. Hein, ceux qu'on appelle à tort les petits prophètes, on dit petits parce que les livres, comme le livre d'Amos, par exemple, hein, c'est un petit livre au sens où il y a très peu de chapitres, hein, mais ce sont des textes très virulents en termes de morale sociale. Chez les petits prophètes. Ce sont des morales de la contestation sociale, si vous voulez, c'est les gilets jaunes de l'époque. Amos, c'est vous, les riches, qui êtes vautrés, je dis bien vautrés, sur vos divans et qui consommez des biens, etc., etc. Il faut changer tout ça, dit Amos. Il faut restaurer la justice sociale. C'est une morale de la justice sociale chez les petits prophètes. Bon, ben ça, c'est un modèle éthique de l'Ancien Testament. Vous voyez bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec le Cantique des Cantiques, qui n'a lui-même pas grand-chose à voir avec la Genèse. Bon, et puis on pourrait, alors là, si on commence à parler de l'Ancien Testament, on est parti jusqu'à... Voilà. Mais voyez, donc il y a manifestement une pluralité de modèles éthiques dans l'Écriture, pour autant qu'on laisse parler l'Écriture et qu'on ne lui applique pas les modèles qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire, je réfléchis d'abord, je ne sais pas moi, à la suicide, ou la question du suicide. Tiens, c'est quoi la question du suicide dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament? Aujourd'hui, on va dire l'Église est contre le suicide ou parce que c'est la transgression de la loi de Dieu qui nous donne la vie, qui reprend la vie. Et bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans l'Ancien Testament. Donc, la question du suicide dans l'Ancien Testament ne se réduit pas à ce que le catéchisme de l'Église catholique va dire sur la question du suicide aujourd'hui. Donc, la question, c'est de laisser parler le texte saint sans lui appliquer une grille de théologien moraliste affiné que nous sommes, et on va se servir de la Bible pour justifier nos raisonnements. On considère habituellement que la révélation chrétienne est close avec la mort du dernier apôtre. Il y a que le canon des Écritures, la révélation chrétienne, est close avec la mort du dernier apôtre. S'ouvre après la génération des premiers pères apostoliques, des premiers écrits apostoliques, après la Bible. Cet après-midi, j'en ai mentionné un dont vous avez entendu parler certainement dans différents cours, parce qu'en général, c'est un texte que l'on cite dans différents cours pour des raisons très variées, qui est un texte très connu autour du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est ce qu'on appelle l'épître ou la lettre à Diogneth, D-I-O-G-N-E, accent T-E, Diogneth, autour du 1er siècle après Jésus-Christ. L'auteur est anonyme, mais c'est un texte des premières communautés chrétiennes, extrêmement connues. Si vous ne l'avez jamais lu, il est très bref Et donc, vous pouvez aller le voir. Il est extrêmement cité. C'était un texte très souvent cité, en particulier par le pape Benoît XVI, très repris dans la tradition. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui essaye aussi de montrer l'identité chrétienne dans le monde, finalement, non chrétien du premier siècle. Et ce texte se pose la question, l'épître à Dionysie, tout le temps, est-ce qu'un chrétien doit faire ceci ou doit se comporter comme ça dans le monde ? Et si vous avez en mémoire un petit peu la lettre à Dionysie, la réponse de l'auteur, c'est de dire oui. À savoir, un chrétien dans le monde, il fait comme les autres. Il mange comme les autres. Il s'habille comme les autres. Il va travailler comme les autres. Tout le texte de l'épître à Dionysie, ça c'est très moral, hein, au bon sens du terme. Les mœurs du chrétien dans le monde, c'est de faire comme les autres. Sauf, là, je ne vous vends pas la mèche, si vous n'avez jamais lu l'épître à Dionysie, allez la lire, c'est un superbe texte qui est court, et qui est amplement cité pour dire à quel point, si vous voulez, le chrétien s'immerge dans le monde, il n'a aucune raison de se distinguer du monde pour manger, se vêtir, travailler, etc., etc., sauf. Allez le voir, c'est un texte qui est particulièrement moral ou éthique, hein, mais nous sommes déjà dans un texte, vous voyez, qui est après l'Écriture, après les apôtres. Ensuite, on arrive très rapidement au texte des pères de l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cours de patrologie ou de patristique. Bon, alors, si vous n'avez pas eu le cours de patrologie et de patristique, c'est embêtant parce que ça suppose que je sois... Ah oui, alors j'étais peut-être un petit peu trop rapide ce matin. Bon, la patrologie, c'est la période de l'histoire de l'Église qui s'étend des tout premiers écrits après la mort du dernier apôtre, hein. C'est les toutes premières communautés chrétiennes, jusqu'à, on dit habituellement, le dernier père de l'Église, c'est Isidore de Séville. Alors, Isidore de Séville, en général, quand j'en parle, je me trompe sur les dates, donc je vais faire plus intelligent que d'habitude. Isidore de Séville, ouais, 7e siècle. 7e siècle. Vous voyez, c'est une période qui couvre en gros du 1er au 7e siècle. Ce qu'on appelle, il y a la patrologie ou la patristique, hein, c'est deux termes à peu près équivalents, c'est l'étude des pères de l'Église. C'est-à-dire, on est juste après le canon, les Écritures, et juste avant la période de ce qu'on appelle les théologiens médiévaux, donc le Moyen-Âge chrétien. C'est la patrologie, c'est les premiers siècles chrétiens jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Alors, les pères de l'Église, on les connaît tous un peu pour en avoir lu quelques-uns au moins. Les grands-pères de l'Église latine, c'est évidemment saint Augustin et saint Jérôme, pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a de très nombreux. Et on peut mentionner également, par exemple, saint Léon le Grand. Bon, et puis il y en a des moins connus, mais peut-être que ces trois-là sont les plus connus pour les pères latins, hein. Augustin, Jérôme, Léon. Et puis pour les pères grecs, donc le courant grec, je mentionne par exemple saint Jean Damascène, saint Jean de Damas, parce que c'est probablement le plus célèbre. Alors qui étaient les pères? Les pères de l'Église, en gros, ce sont les premiers chefs ou les premiers responsables des communautés chrétiennes après les apôtres. La plupart du temps, c'était des moines. Il y avait deux types de moines, vous savez, c'est-à-dire les moines dits cénobitiques et les moines dits érémitiques, avec la figure, par exemple, de saint Antoine, le présenté comme le père des moines. Donc, avec ces deux modèles-là, du cénobitisme et de l'érémitisme, l'ermite se retirant au désert, le cénobite vivant en communauté. Les pères sont puisés parmi ces grandes figures de moines vivant seuls ou en communauté et qui très souvent devenaient abbés de leur communauté ou évêques de leur diocèse à l'époque où les évêques étaient élus par le peuple de Dieu. Je dis bien à l'époque où les évêques étaient élus par le peuple de Dieu. Et on élisait à ce moment-là des moines, etc. Autre caractéristique, les pères de l'Église étaient de grands savants, tous. C'est-à-dire, c'était des grands érudits qui maîtrisaient aussi bien la théologie que la philosophie, la philologie, la médecine, les langues de l'époque. Tout ce monde-là parlait abondamment grec, hébreu et latin, à minima. Hein, pouvait maîtriser d'autres langues, bien entendu, pouvait traiter la biologie de l'époque, la botanique, pourquoi pas, de l'époque. Hein, donc, on ne peut pas se représenter ce que ça veut dire aujourd'hui. Hein. Le savoir à l'époque des premiers siècles chrétiens, c'est un savoir unifié. Totalement unifié. Quand vous étiez père de l'Église, vous étiez à la fois abbé, évêque et savant, maîtrisant aussi bien la mathématique de l'époque que la philologie ou la philosophie de l'époque. Le savoir était unifié. Ça n'a absolument rien à voir avec le savoir atomisé tel qu'il est aujourd'hui, où vous faites une fac de sciences, une fac de lettres, mais vous êtes certainement pas, mais vous maîtrisez certainement pas les deux. À l'époque des pères de l'Église, c'est totalement unifié et la théologie elle-même est totalement unifiée. Hein? Donc, le portrait idéal, si vous voulez, du père de l'Église, c'est moine, évêque, érudit. Et donc, prédicateur. Qu'est-ce qu'un père de l'Église? C'est un commentateur de la Bible et un prédicateur. Les pères de l'Église ont passé leur temps à commenter l'Écriture sainte et à la prêcher à leur communauté ou à leur paroisse. Donc, nous sommes dans le cadre d'une théologie annoncée, une théologie prêchée, une théologie communiquée. Voyez, ce sont des grands savants, mais en même temps des prédicateurs et des apôtres de leur communauté. Ce n'est pas du tout le modèle qu'on a aujourd'hui du théologien universitaire, hein, ou du théologien qui est sur sa table de travail, même si on représente, par exemple, Augustin ou d'autres, Jérôme, évidemment, puisque c'est la Vulgate, en train de, avec un stylet, vous savez, etc. Mais le père de l'Église, ça n'est pas du tout le théologien universitaire actuel, c'est aussi bien un savant qu'un prédicateur de terrain. Donc, c'est un modèle, je dirais, le père de l'Église, il est tout terrain. Et la théologie des pères de l'Église, elle est également tout terrain. Je vous dis ça parce que c'est uniquement comme ça qu'on peut comprendre ce que c'est que la morale des pères de l'Église. Alors, où trouve-t-on les textes moraux des pères de l'Église? On les trouve dans différentes catégories de textes que vous pouvez aller consulter. Il y a une collection spéciale qui est faite pour ça, qu'on appelle la collection Sources chrétiennes, aux éditions du Cerf, qui doit être à son, je ne sais plus combien tième, de 600 volumes et quelques publiés, 600, 700, je ne sais plus où ils en sont. Les textes des pères de l'Église, il y a plusieurs catégories de textes. Il y a d'abord les grands traités. Alors, les grands traités, en général, ce sont quand même des traités de dogmatique ou doctrine trinitaire, christologie, philosophie, etc. Là, vous y trouvez en général pas de morale. peut aborder un thème de morale, mais c'est plutôt des textes doctrinaux de fond, très grands traités. Par exemple, saint Augustin en est un des spécialistes absolus des très grands traités qui faisait le bonheur absolu de Joseph Ratzinger, qui les connaissait par cœur, hein, puisque Ratzinger était un augustinien particulièrement calé. Bon. Donc, les grands traités, pour la morale, ce n'est pas la peine d'aller trop y voir, vous ne trouverez pas de morale là-dedans, ou presque pas. En revanche, vous avez des commentaires de l'Écriture. Alors là, vous trouvez des questions morales. Là, c'est très intéressant. Vous pouvez aller regarder, lire, par exemple, je ne sais pas, hein, tout à coup, il y a un père de l'Église qui aura envie de commenter Job. Ah ben, c'est très intéressant, Job. C'est la question du mal. Le mal, le malheur que l'on subit, la peine, la souffrance. Le mal envoyé par Dieu ou par le diable, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quoi la morale du livre de Job? Alors là, vous avez des commentaires sur le livre de Job. Commentaires sur les psaumes. Enarrationes in psalmes, par exemple. Vous trouvez ça. Donc, des commentaires de l'Écriture. Quand un père commente l'Écriture, il se peut qu'il tombe sur une question de morale. Et là, vous trouvez des questions de morale. C'est la deuxième catégorie de textes. Là, cette fois-ci, contrairement à la première, vous trouvez des textes moraux. Et puis, il y a une troisième catégorie, où là, c'est alors spécifiquement, pour le coup, des questions de morale, c'est quand un père de l'Église est saisi, par exemple, lors d'une prédication, d'une question morale qu'il a envie de traiter. J'en donne une, parce qu'elle m'est venue à l'idée cet après-midi, c'est, par exemple, je ne sais pas, la tenue des femmes dans les assemblées chrétiennes. Question qui a aussi, si vous en souvenez, intéressé saint Paul, on retrouve ça, la question de la tenue des femmes, le voile, etc., comment doivent s'habiller les femmes dans l'assemblée chrétienne, pour quelles raisons elles doivent s'habiller comme ça et pas comme ça, etc. Alors là, vous trouvez par exemple la prédication d'un père de l'Église sur cette question ponctuelle. Et puis, un tas de questions, hein, morale économique, morale sociale, etc. Donc, trois catégories de textes, les grands traités. Là, je vous dis, c'est rare de trouver des... Bon, les commentaires de l'Écriture, là, c'est au contraire très... Les questions morales sont abondamment traitées. Les commentaires sur une question circonstancielle, parce que le père de l'Église prêche à sa communauté et qu'il répond à sa communauté sur une question morale dont il se saisit. Ça, c'est là où on trouve... Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? Quels sont les thèmes? Alors, les thèmes moraux, c'est à peu près toujours les mêmes chez les pères de l'Église. Le premier grand thème, c'est la question des persécutions, puisque nous sommes dans le cadre d'une Église persécutée qui doit donc se situer. À l'époque des persécutions, les textes moraux des pères de l'Église font l'éloge du martyr. Le martyr est régulièrement traité par les pères de l'Église, c'est-à-dire ce qu'on appelle le baptême du sang, verser, aimer le Christ jusqu'à verser son sang pour lui et comme lui, il a versé son sang pour nous. Donc vous avez régulièrement l'éloge du martyr à travers de nombreux textes des pères de l'Église. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, alors là, très, très, très nombreuse, de prédications, ou pas seulement de prédications d'ailleurs, mais de réflexions des pères de l'Église sur la morale de la chasteté. Donc, les questions de pureté, de chasteté, de continence, d'abstinence, enfin, tout ce qui relève du domaine de la vie, on va dire, affective et de la vie conjugale. Ça, c'est aussi le deuxième très grand thème de la prédication morale des pères. Et puis après, vous avez également des thèmes qui sont abondamment traités, comme la question de l'amour et de la charité, hein, donc l'agapé. Je pense par exemple aux commentaires sur les épîtres de Jean. par saint Augustin, qui sont des textes magnifiques, qui commentent la notion d'amour, d'agapé. Et puis, vous avez des textes sur des questions, j'allais dire ce qu'on dirait aujourd'hui, des questions de société. Donc, la pauvreté, la richesse. Hein, surtout que la pauvreté ou la richesse, vous voyez, ce sont des thèmes, ce que je disais tout à l'heure, les petits prophètes, là, les révolutionnaires, là, avant l'heure, hein, eh bien, dès lors qu'un père de l'Église commente un texte d'un petit prophète, forcément, il investit la question de la pauvreté et de la richesse, à partir de son commentaire de l'Écriture. Voilà quelques abords rapides de la morale chez les pères. Alors, ce que je vous dirai la prochaine fois, c'est que donc, chez les pères de l'Église, la théologie morale, la théologie est un acte unifié. Il n'y a pas une théologie morale à part, de même qu'il n'y a pas une théologie sacramentelle ou trinitaire. Faire de la théologie, c'est tout un pour un père de l'Église. Et ce que je vais essayer de vous, ce que je ne vais pas essayer, je vais le faire la prochaine fois, de vous présenter, mais je la mentionne déjà ce soir pour conclure, c'est ce que Origène appelle, et avec lui toute la théologie médiévale même, la théorie des quatre sens de l'Écriture. La théorie des quatre sens de l'Écriture. Je ne vous donne qu'un aspect apéritif, si vous voulez, de cette théorie. L'Écriture, puis je le reprendrai après de manière détaillée la prochaine fois, l'Écriture sainte a toujours quatre sens. Quatre sens, toujours. Parmi ces sens, il y a ce que les Origène appelaient le sens moral. Mais le sens moral de l'Écriture sainte, ça n'est qu'un sens parmi les quatre. Je vous décrirai les trois autres, donc, puis même le sens moral, j'entrerai dans les détails la prochaine fois. Origène, pour la petite histoire, c'est même pour la grande histoire, n'est pas un père de l'Église. Origène est une figure monumentale des premiers siècles. C'est probablement un des plus grands érudits de l'histoire et un des plus grands savants chrétiens que l'Église ait porté, mais il n'est pas considéré comme un père de l'Église parce qu'il n'a pas le sceau à tous égards, il n'a pas le sceau de l'authenticité doctrinale parce qu'il se trouve qu'Origène a eu le tort dans sa vie, de soutenir une théorie, de développer une théorie qui s'appelle la théorie de l'apocatastase. Et cette théorie d'apocatastase, oui, ça fait très chic parce qu'il y a plus de 5 syllabes dans le mot, mais l'apocatastase, c'est la théorie qui prêche, la réhabilitation des damnés à la fin de l'histoire. En gros, personne n'ira en enfer, et Jésus rétablira les damnés à la fin de l'histoire, qui eux aussi seront sauvés. Il se trouve que ce qu'on appelle l'apocatastase est une doctrine qui n'a pas été reconnue par l'Église, et c'est une doctrine qu'a développée Origène. Donc Origène a été un petit peu mis à l'écart, et donc officiellement il n'est pas reconnu comme un père de l'Église, du point de vue de la vérité de son enseignement, sur ce point-là seulement. Hein. Cela dit, Origène a irrigué, enfin son savoir et sa culture ont irrigué toute la culture de l'Église des premiers siècles et de l'Église médiévale ensuite. Et on doit notamment à Origène la théorie des quatre sens de l'Écriture dont tout le monde s'est servi après lui. Donc je vous la décrirai la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à présent ? Il y a des mots que j'aurais pu utiliser, hein, ceci sur la morale des pères, quand j'ai dit chasteté, continence, abstinence, pureté, intégrité, virginité. il y a de très nombreux traités des pères de l'Église sur la virginité. Et pas seulement la virginité corporelle, mais la virginité, on peut dire aussi en esprit. Il y a aussi beaucoup de traités sur le mariage, hein, mais à l'époque des pères de l'Église, bon, attention, hein, ce n'est pas le mariage chrétien tel qu'on l'envisage exactement aujourd'hui, ni même à l'époque des papes du XXe siècle. Le mariage, c'est, je pèse mes mots parce que l'expression, elle est, on la trouve chez tel ou tel père, ça va peut-être vous choquer, mais le mariage, c'est ce que les pères appelaient un péché permis pour la reproduction de l'espèce. Et on se marie pour donner la vie, pour transmettre la vie aux enfants, pour faire naître des enfants. Ce n'est pas du tout la théologie du mariage telle qu'on la lit, ne serait-ce que chez Jean-Paul II. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir. Ce n'est pas du tout une théologie dans laquelle on va, il ne faut pas trouver chez les pères, voyez, vous n'allez pas trouver un père qui va vous décrire le don mutuel ou l'amour mutuel entre les époux. Ce n'est pas du tout la priorité. Hein. La priorité, c'est donner la vie, c'est-à-dire faire des enfants, reproduire l'espèce. Mais il y a de nombreux traités des pères sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la sexualité et la vie affective. Cela dit, ça n'a là aussi, ou là non plus, pas grand-chose à voir avec ce que les sciences humaines et sociales nous disent aujourd'hui, y compris chrétiennes, hein, sur l'affectivité. Nous sommes quand même dans un autre monde, d'autres mentalités qu'aujourd'hui. Hein, ça, c'est extrêmement clair. Hein. Des questions, des remarques?
La question du cantique des cantiques pour les pères de l'Église.
Oui, la question du cantique des cantiques pour les pères. Alors, il est très commenté, ce texte, mais il est très spiritualisé, érotisé au sens noble du terme, si vous voulez, même mysticisé. Hein, avec, comme vous pouvez l'imaginer, une thématique, un commentaire sur des commentaires sur l'époux, l'épouse, l'église-épouse, le Christ-époux. Donc, c'est très spiritualisé, voire carrément mysticisé. Hein. Mais en effet, c'est un texte tout à fait commenté, j'allais dire, en bonne place. Mais là encore, vous voyez, c'est intéressant votre question parce qu'elle soulève la diversité, là encore, des modèles éthiques. Vous avez le modèle éthique du Cantique des Cantiques, avec quand même des expressions assez crues hein, dans le Cantique des Cantiques. Hein, et vous avez, chez les pères, pourtant, une morale qui prêche beaucoup la chasteté conjugale au sens de la maîtrise des passions. Hein, puisque j'ai eu l'occasion de le dire, je le redirai abondamment la prochaine fois, la morale chrétienne telle qu'on la connaît aujourd'hui est une morale qui est largement inspirée de la morale des Grecs. Donc, quand on parle des pères latins et des pères grecs, on parle d'une morale qui est largement dépendante de l'héritage stoïcien. C'est massivement les stoïciens qui représentent la source païenne la plus importante de notre théologie chrétienne d'aujourd'hui, avec un thème central chez les stoïciens, qui est la maîtrise des passions. Donc, dès qu'on vous parle, vous voyez, ce n'est pas le Cantique des Cantiques d'abord, hein, c'est dès qu'on vous parle aujourd'hui, c'est un lieu commun, si vous voulez. Qu'est-ce que la morale? C'est se maîtriser. Tout le monde a un peu ça dans la tête, et en particulier, la maîtrise de la vie morale, ça veut dire la maîtrise des passions. Parce que les passions sont mauvaises, les passions nous dominent, les passions nous égarent, les passions nous trompent. Ce thème-là, avec même le mot maîtrise et a fortiori le mot passion, il est directement hérité de la morale stoïcienne. Donc, il y a une grandeur du stoïcisme qu'a complètement utilisé et transformé, bien sûr, hein, mais utilisé la morale chrétienne. Ça, c'est l'héritage grec. Vous voyez que cet héritage grec de la maîtrise des passions, ce n'est pas exactement ce qu'on lit dans le Cantique des Cantiques. Voilà. Donc, il y a incontestablement, là aussi, une pluralité des modèles éthiques. Mais il est incontestable que bon, les pères de l'Église se sont focalisés sur quelques grands thèmes qu'on trouve à peu près transversales dans tous leurs écrits. Bon, mais il est 22h, c'est très bien, je mets fin à notre soirée, à l'enregistrement. Je vous remercie de votre patience, de votre attention, et on se retrouve sur nos ondes, hein, comme disait Lucien Jeunesse autrefois, si vous le voulez bien. Donc, passez une bonne fin de soirée et à bientôt.
Merci, bon courage pour votre écrit.
Je vous en prie.
Merci, bonne nuit, au revoir.
Au revoir. Enregistrement.